Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Et si le changement n'était pas ce que l'on pense ? Quand on évoque la métamorphose, on imagine souvent des transformations spectaculaires, visibles et immédiates. Mais la métamorphose, c'est bien plus que cela. Elle peut être intérieure, subtile, lente ou invisible. Elle s'opère aussi dans notre langage, évoluant en continu, génération après génération. Et si chaque métamorphose était l'occasion de voir le monde autrement ? C'est le thème de la 9e édition de la Nuit Blanche des chercheurs de Nantes Université et le thème de l'émission du jour. Et comme chaque année, c'est le retour d'une nuit fascinante qui donne la part belle à la recherche scientifique, à l'expérimentation et à la rencontre entre chercheurs et public. Rendez-vous cette année à la Halle 6 et à Stéréolux le jeudi 6 février 2025 prochain de 17h à minuit. Le thème, on l'a dit, métamorphose. Et avec nous pour en parler en plateau, nous recevons Martha Donazan, ça y est, je me trompe. Bonjour.
Bonjour.
Jérémy Pasquereau, bonjour.
Bonjour.
Et Maëlle Dupont, Michaud Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les trois membres du laboratoire de linguistique de Nantes, rattaché au CNRS et à Nantes Université, et vous travaillez notamment sur la sémantique du langage. La sémantique, c'est donc l'étude du sens, de la signification, et on verra tout ça évolue en continu. Cette année, vous serez donc présent à la Nuit Blanche des chercheurs avec une mini-conférence à Stéréolux de 18h30 à 19h, le titre « D'une langue à l'autre, voyage au cœur des transformations linguistiques ». Et nous entendrons également dans cette émission spéciale Métamorphose deux chroniques de nos bénévoles en accord avec le programme. Mélissa, tu t'es penchée sur l'histoire de la santé des femmes en écho à la mini-conférence de 20h « Femmes oubliées, récits retrouvés, repenser l'histoire au prisme du genre ». Et Cécile, tu as exploré l'éternel sujet de la chenille qui se change en magnifique papillon en observant cette fois leurs cellules. Un complément à la conférence de 19h intitulée « Au-delà des limites, quand le corps se réinvente ». Vous êtes bien ? Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Et si vous passez la Nuit Blanche des chercheurs, n'hésitez pas à venir nous voir, nous, le Labo des Savoirs. On testera vos connaissances sur les sciences et sur nos émissions avec un quiz sur mesure. On a hâte de vous rencontrer. Et avant de donner la parole à nos invités pour évoquer ensemble les métamorphoses et les évolutions de la langue, je me tourne vers toi, Mélissa. Tu as voulu revenir sur l'évolution de la recherche biomédicale avec un changement de taille. Pour la première fois de l'humanité, on va prendre en compte les différences entre les hommes et les femmes.
Effectivement, demain à la Nuit Blanche des chercheurs, il y a une mini-conférence sur les femmes oubliées dans la recherche. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de comment on a pendant longtemps oublié les femmes dans la médecine. Car comme tu l'as dit Sophie, oui, on va enfin prendre la différence en compte. Voilà. Car comme tu l'as dit, oui Sophie, on va enfin prendre en compte la différence entre les hommes et les femmes.
Est-ce que ça veut dire que les hommes et les femmes ne sont pas soignés de la même manière déjà ?
Ben si justement, et c'est bien ça le problème. Les femmes sont soignées comme si elles étaient des hommes, ou plutôt des mini-hommes, notamment pour les médicaments et leur posologie. On adapte la dose en la diminuant pour les femmes, car en général, elles sont plus petites que les hommes. Mais c'est le seul critère qui va être pris en compte. Cependant, beaucoup de médicaments ont dû être retirés du marché car ils avaient trop d'effets secondaires chez les femmes. Bah oui, quand 80% des médicaments n'ont été testés que sur des hommes ou des sujets mâles, c'est pas étonnant. Pourtant, on sait qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur certaines pathologies. Les cancers, par exemple, touchent plus les hommes, alors que les maladies auto-immunes touchent majoritairement les femmes. Ces différences de fonctionnement mènent également à des erreurs de diagnostic ou des errances plus importantes chez les femmes. Par exemple, l'infarctus. Quand on s'imagine un infarctus, on voit une personne ressentir une forte douleur dans la poitrine ou avoir mal au bras, par exemple. Ceci est vrai chez les hommes, mais pas forcément chez les femmes. Il a récemment été décrit que les symptômes d'infarctus chez une femme peuvent se manifester de manière moins évidente. Les patientes décrivent une oppression, des bouffées de chaleur et des nausées et vomissements. Par conséquent, le diagnostic est plus compliqué et plus long. C'est le cas aussi pour beaucoup d'autres maladies, comme la découverte de l'endométriose, par exemple. Ça met fin à des années d'errance médicale pour de nombreuses femmes. Aujourd'hui, on sait qu'elles sont 1 sur 10 à être touchées. Une errance médicale et des erreurs de diagnostic qui mettent en évidence un manque de connaissances, notamment à cause des recherches biomédicales et cliniques faites principalement sur les hommes et les individus mâles.
Est-ce que ça veut dire que les femmes et les individus femelles, quand on parle des études faites sur les animaux par exemple, étaient exclus de la recherche clinique et des études scientifiques ?
Eh bien, Biri et Zucchet se sont penchés sur la question dans leur article en 2011. Et elle montre que, de base, avant 1969, préciser le sexe des sujets de l'expérience ne semblait pas pertinent tout court. Entre 60 et 80% des articles des journaux étudiés ne mentionnent rien à ce sujet. Puis, dans les années 70, on voit une prédominance des études biologiques sur les individus mâles qui atteint 70% environ, contre 0% pour les individus femelles. Et dans les années 90-2000, on voit une stabilisation de ces études, uniquement mâles à 55%, mixtes à 10% et uniquement femelles à 10% également, mais avec une tendance à l'augmentation. Les 25% restants ne mentionnent toujours pas le sexe comme une variable. Du coup, ces limitations étaient bien sûr mentionnées dans les études. Mais comme l'absence d'analyse statistique avant les années 40 n'ont pas empêché des avancées majeures en biologie, on a considéré que l'éviction des individus femelles des études n'arrêterait pas le progrès de la recherche pour autant.
Mais alors quelles étaient les raisons d'exclure activement les femmes ?
Ben, faut dire que de base, on part de loin. On hérite d'une médecine très patriarcale. Dans l'Antiquité, par exemple, les Égyptiens et les Grecs considéraient que les maladies touchant les femmes étaient provoquées par un utérus en manque de sperme. Oui, Platon décrivait par exemple que quand une femme souffrait de problèmes respiratoires, il l'expliquait par un utérus qui errait dans le corps à la recherche de sperme pour être fécondé. Comme il ne l'était pas, il devenait irrité et en colère, il fermait ainsi le passage de l'air et faisait suffoquer la femme.
Bien sûr, évidemment.
Et puis plus récemment, au XIXe siècle, on traitait encore les femmes contre l'hystérie, soi-disant une maladie psychique, à coups de massages et de jets d'eau sur le vagin. Pour des raisons plus contemporaines, du coup, les données provenant des individus femelles étaient considérées trop variables, notamment dues aux hormones et au cycle menstruel. Pas pratique pour avoir des statistiques significatives. Il y avait également un argument économique. Cela faisait étudier deux fois plus de sujets, donc deux fois plus coûteux. Bref, des raisons qui nous semblent bien désuètes aujourd'hui, surtout qu'une méta-analyse de 293 publications a montré que la variabilité n'était pas plus grande chez les femmes et chez les femelles que chez les mâles.
Alors aujourd'hui, comment on peut faire pour rattraper tout ce temps perdu ?
Eh bien aujourd'hui, depuis le milieu des années 2010, la nécessité de compléter nos connaissances sur la santé des femmes et de changer les pratiques de médecine ont été soulignées par de nombreux rapports internationaux. Cela passe notamment par une obligation des grandes instances de recherche comme l'INSERM en France ou le National Institute of Health aux États-Unis à inclure les deux sexes dans les études cliniques, mais aussi dans les études de recherche fondamentales jusqu'au niveau cellulaire. Car oui, les cellules ont un sexe. Beaucoup de gènes situés sur les chromosomes sexuels XX et XY sont exprimés dans les cellules non sexuelles, comme celles du cerveau ou du système immunitaire, et donc ont un impact sur leur fonctionnement. Grâce à ces obligations, en seulement 10 ans, les études portant sur les deux sexes sont passées de 28% en 2009 à 49% en 2019. On est donc sur la bonne voie. Ces instances recommandent également de rendre plus accessibles les données déjà récoltées par rapport au sexe, car beaucoup de données sont déjà là. Simplement, elles ne sont pas exploitées ou pas bien identifiées. Au final, toutes ces réflexions sur l'inclusion des femmes dans la manière de soigner peut également aller plus loin et s'étendre aux minorités ethniques. Car si les études ont principalement été faites sur les hommes, on peut préciser qu'elles ont été faites sur des hommes blancs. On manque également de données qui prennent en compte l'origine ethnique comme une variable. Des chiffres en 2014 montrent par exemple qu'aux États-Unis, la maladie d'Alzheimer touche moins les Asiatiques que les Blancs et les Noirs américains, et qu'elle touche plus les femmes que les hommes. Tout est interconnecté. Une médecine personnalisée pour mieux soigner tout en évitant les discriminations de genre ou raciales, c'est tout l'enjeu du futur de la médecine.
Merci Mélissa pour cette entrée en matière. De retour avec nos invités, Martha Donozanne, Jérémy Pasquereau et Maëlle Michaud-Dupont. Votre métier de linguiste, c'est d'étudier la langue, mais aussi les évolutions et les changements. Alors, première question très généraliste, est-ce que la langue est condamnée à une évolution constante ? Et si oui, comment vous pouvez réussir à étudier la langue à un instant T ? Jérémy.
Nous, en tant que linguistes, on étudie les langues, en fait, parce qu'on considère que les langues sont les manifestations d'une capacité humaine de langage. Donc on peut très bien se concentrer sur une seule de ces manifestations, une langue, ou bien au contraire regarder comment la capacité de langage se manifeste différemment à travers différentes langues. Et pour répondre à votre question, bien oui, les langues sont condamnées à changer continuellement. Alors il peut y avoir différents freins qui peuvent freiner en fait cette évolution, qui peuvent en tout cas essayer de la freiner. Alors c'est le cas si on a des normes, si on impose des normes sur une langue en particulier, ça va un peu figer la langue dans un état. Et puis si on a une attitude très conservatrice, eh bien évidemment ça va d'autant plus freiner cette évolution. Mais de manière générale, il n'y a pas moyen de la même manière qu'il n'y a pas moyen d'arrêter le vieillissement d'une personne, le vieillissement biologique.
D'ailleurs, un des messages qu'on souhaite faire passer aussi lors de notre mini-conférence à la Nuit Blanche, c'est justement d'expliquer que la variation dans la langue et le changement, c'est vraiment un phénomène naturel. La langue est vivante aussi, et elle évolue, elle se métamorphose de façon constante. Et notre métier en tant que linguiste, c'est justement d'observer ce qui se passe, sans jugement et sans prendre position contre ou pour. C'est juste de voir les phénomènes tels qu'on peut les observer, et on constate que c'est le cas. Donc on peut pas...
Oui, vous avez plutôt une approche descriptive, vous contemplez ces changements, vous les voyez en marche, et vous n'êtes pas du tout dans une approche plus prescriptive qui serait de dire les bonnes pratiques à adopter, qu'on associe souvent dans nos têtes à l'Académie française par exemple. Ce sont des approches qui sont opposées, complémentaires?
Moi je dirais qu'ils sont complémentaires, hein, dans le sens que nous on a une approche scientifique, on essaie juste d'observer ce qui se passe, essayer de l'expliquer comme ferait n'importe quel scientifique avec n'importe quel sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire parfois de créer, de mettre par écrit aussi, ou de créer des normes qui nous permettent effectivement d'avoir une langue commune. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'Académie française, c'est peut-être son but, c'est de créer un français tel que tout le monde puisse s'identifier avec cette langue et la partager.
De créer un cadre, finalement.
Un cadre. Donc, je pense que ce n'est pas deux approches qui doivent s'opposer, il n'y a pas de polémique là-dessus. Mais ces deux approches, oui, peut-être complémentaires, finalement.
Il y a des exemples pleins dans la langue française où on voit que c'est ce qu'on emploie nous en langue, mais qui ne correspond pas forcément à des règles qui ont été établies par l'Académie française. Un exemple qui illustre bien cette variabilité, c'est le côté possession. Le classique, le pull de Camille, en bon français, je mets des guillemets, mais on connaît tous des personnes autour de nous qui disent spontanément le pull à Camille. Alors est-ce que ce serait une erreur ?
Voilà, écoutez, l'exemple que vous mentionnez, on va le détailler justement pendant notre mini-conférence à la Nuit des chercheurs. Donc vous avez fait exactement le type d'exemple en fait, qui montre qu'il y a bien un manque d'alignement finalement entre les recommandations de l'Académie française et puis finalement les grammaires que les gens ont en tête quand ils parlent. Donc on en parlera plus à la Nuit Blanche des chercheurs, mais... Pour rebondir là-dessus, il y a d'autres exemples. Hein, vous avez par exemple, malgré que je sois venu ou que je suis venu, il n'a pas fait ça. Là où l'Académie française recommande de dire, malgré le fait que je sois venu. Bon, la question est finalement si les gens le disent, si beaucoup de gens le disent, se comprennent. Finalement, est-ce que ça ne fait pas partie de leur grammaire? Nous, on observe simplement que les gens le disent. Et qui ne disent pas d'autre chose. D'ailleurs, ils n'acceptent pas d'autre chose qu'on pourrait leur proposer. Et donc, ça nous intéresse, en fait. Peut-être, Martha, tu veux donner un autre exemple ?
À l'exemple avec le subjonctif, ouais. C'est quelque chose qui m'avait frappé parce que j'entendais les gens. Moi, j'ai appris le français sous une grammaire, donc évidemment. Et normalement, on apprend que quand on utilise la préposition avant que, on va utiliser le subjonctif, donc avant qu'il soit venu. Et quand on utilise après, on doit utiliser l'indicatif, après qu'il est venu. Alors que tout le monde dit après qu'il soit venu. Mm-hmm. On peut trouver une raison pour laquelle il y a cette distinction de mode entre subjonctif et indicatif avec ces prépositions. C'est quelque chose qui arrive dans d'autres langues. Mais le fait est qu'aujourd'hui en français, l'utilisation du subjonctif s'est généralisée peut-être par un mécanisme qu'on verra plus tard, qui s'appelle le mécanisme de l'analogie. On fait une analogie avec avant, et entre avant et après. Et c'est un phénomène naturel aussi, qu'on observe encore dans d'autres langues. Donc tout peut s'expliquer, en fait, de façon assez rationnelle. Et les gens, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens ne disent pas n'importe quoi. Voilà.
Oui, ce n'est pas juste des gens qui parlent mal le français.
Non, exactement. En fait, ce qui est c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que finalement, ben, les gens se permettent de tout faire et puis qu'il n'y a qu'aucune règle. Sauf que, en fait, quand on construit certains exemples, on s'attendrait à ce que si les gens font n'importe quoi, ils acceptent ces exemples, disent mais oui, moi je pourrais dire ça, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Enfin, pas avec tout. Avec tout ce qu'on pourrait penser qui devrait être acceptable.
Donc, dans la façon de parler qui, disons, n'est pas du bon français, il y a quand même des règles implicites parmi les personnes qui utilisent, par exemple, plus la Camille ou alors le subjonctif, même après, justement.
Oui. Vous voyez, par exemple, typiquement, l'exemple qu'a donné Martha sur avant qu'il vienne, après qu'il vienne, donc suivi du subjonctif. Alors on pourrait penser, mais peut-être que les gens parlent mal, et parce qu'en fait dès qu'ils voient le mot « que », ils mettent un subjonctif. C'est une hypothèse qui serait très facile à tester, c'est-à-dire qu'on peut construire des phrases où dès qu'on a « que », on va mettre un subjonctif. Or, les gens n'accepteront pas le subjonctif après tous les « que ». Si par exemple je dis « il a dit qu'il vienne demain », par rapport à « il a dit qu'il vient demain ou qu'il viendra demain », la question c'est « est-ce que cette phrase est acceptable ?» A priori, mes collègues semblent d'accord avec mon intuition que non, donc il faudrait évidemment tester, mais ça montre bien que ils ne font pas n'importe quoi. Il y a quelque chose qui fait que le subjonctif est acceptable, est plus acceptable après d'autres locutions avec que.
Est-ce qu'il y a aussi des variations de l'utilisation, donc là notre exemple c'est le français, en fonction des régions, au-delà des expressions ou des mots de vocabulaire spécifiques à une région où on s'amuse souvent à comparer entre voisins régionaux, mais est-ce qu'il y a des façons de parler qui changent en fonction de l'endroit en France, et sans parler du patois?
Oui, mais le patois en fait, qu'est-ce que patois? Sans doute qu'on parle tous un patois. Voilà, alors. Mais oui, évidemment, il y a beaucoup de variations régionales, parfois même de variations individuelles, mais si on s'en tient à la variation régionale, par exemple, si vous avez passé un peu de temps dans le sud de la France, vous aurez peut-être remarqué que les gens emploient une construction verbale qui n'est pas si fréquente à Nantes et dans les environs. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, une fois que j'ai eu fini mon travail, je suis allé à la salle de sport. Alors, j'ai eu fini mon travail. Moi, par exemple, qui ai fait une partie de mes études à Lyon, sans m'en rendre compte, j'ai acquis cette construction.
Oui, moi, je ne connais pas. Une fois que j'ai eu fini.
Oui, une fois que j'ai eu fini mon travail. Alors, ça s'appelle le passé surcomposé.
D'accord.
Vous voyez ? Et ça, c'est typique de la langue d'oc.
Donc, on n'est pas en train de parler de patois ou de façon de parler comme le corse ou le ch'ti. C'est vraiment du français, mais avec une utilisation particulière.
Et vous voyez, par exemple, vous employez le mot, je me permets
oui, allez-y.
De rebondir sur ce que vous venez de dire, par exemple. Alors nous, en général, on utilise le terme neutre de variété. On va regarder une variété linguistique et essayer de voir quelles règles sous-tendent cette variété. Mais en l'occurrence, le corse, c'est une variété linguistique. Mais dans la mesure où, si vous mettez un locuteur du corse et un locuteur du français, ils ne se comprendront sans doute pas, si ce sont des locuteurs monolingues, eh bien, on va dire que ce sont deux langues différentes. Donc, pour nous, en fait, on ne fait pas d'ailleurs de différence vraiment entre. Enfin, ces termes, langue, variété, n'ont pas de sens, scientifique pour nous.
Voilà. D'accord. Donc, le corse est une langue.
Voilà.
Et pas juste un patois ou une variation régionale. C'est une langue à part entière dans cette.
Oui, il y aurait beaucoup en fait à dire sur tous ces mots qu'on emploie patois, parler, jargon,
dialecte.
Oui. Voilà. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre communication à la Nuance des chercheurs aussi.
N'hésitez pas.
L'idée, en fait, pour faire court, c'est qu'en fait, ces mots, en fait, reflètent des considérations qui ne sont pas linguistiques, mais des considérations qui sont politiques ou de l'ordre d'un prestige. Mais en tout cas, nous, en tant que... Et là, je reviens un peu sur ce avec quoi vous avez commencé, c'est-à-dire la distinction approche descriptive et approche prescriptive. Nous, en tant que scientifiques, quand on prend la langue, les langues comme objet d'étude, on prend une perspective qui est purement descriptive, où on ne porte aucun jugement de valeur. Et c'est pour nous, et c'est pour ça que pour nous, toutes les langues, toutes les variétés linguistiques, quelles qu'elles soient, standards ou pas, elles ont la même valeur.
Vous, Martha, est-ce que vous étudiez justement ces différences géographiques qu'il peut y avoir sur une langue ? Alors, pas forcément le français, mais...
Ben moi, j'ai travaillé sur des langues très différentes. Donc, et ce qui est intéressant quand on regarde des langues qui sont même très différentes, c'est qu'on trouve très souvent des grandes similarités. Justement, à partant de cette idée que la langue est toujours une manifestation de l'esprit humain et notre capacité cognitive, notre esprit est le même à travers le globe. Donc forcément, on produit des choses qui sont, disons, à un niveau plus ou moins superficiel, très différentes. Donc il y a évidemment les grandes différences du lexique, les mots qu'on utilise. Il y a des grandes différences, des macro-différences dans la structure. Mais quand on regarde les principes qui organisent, en fait, la construction des phrases... ou le rapport entre les mots et les sens qu'ils ont, ils sont pratiquement les mêmes à travers les langues.
Il n'y aurait pas de langue qui serait plus sophistiquée que d'autres ou plus évoluée que d'autres ?
Non. Ça, je peux répondre assez carrément non. Et là, le principal argument vient du fait que tous les enfants apprennent leur langue maternelle à la même vitesse. Donc, c'est pas possible qu'il y ait des enfants plus intelligents que les autres parce qu'ils parlent allemand plutôt que français, par exemple.
Dire que le français serait une langue plus noble qu'une autre n'est pas vrai scientifiquement.
Mais en tout cas, noble, c'est pas un concept scientifique.
Oui, voilà. C'est sortir, c'est aller dans ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un peu politique aussi. Voilà. Voilà. Alors, comment remonter dans le temps et revenir aux origines des langues, ou depuis quand utilise-t-on le passé composé pour parler au futur ? Et surtout, est-ce que c'est toujours la faute des jeunes si la langue se métamorphose ? On discute de tout cela juste après la pause musicale. Des sciences au Labo des Savoirs. C'était Without Breathing de Jay Brush. Et nous sommes de retour en plateau avec Martha Donazan, Jérémy Pasquereau et Maëlle Michaud-Dupont du Laboratoire de Linguistique de Nantes. On va continuer à parler du français comme exemple principal dans cette émission, mais vous, vous étudiez d'autres langues très différentes des langues indo-européennes. Lesquelles ?
Alors moi j'ai étudié pendant très longtemps le chinois, mandarin, le chinois standard. Et en ce moment, j'ai commencé depuis quelques années à m'intéresser à une langue amazonienne qui est parlée dans le nord-ouest du Brésil et par très peu de locuteurs, avec des collègues brésiliens évidemment. Et voilà.
Moi, depuis quelques années, je m'intéresse aux langues caucasiennes, parlées dans le Caucase, et notamment j'écris une grammaire d'une langue est-caucasienne ou nardaghestanaise qui s'appelle le karata. Et puis depuis 2007, je travaille sur une langue, un isolat linguistique, c'est-à-dire une langue qui n'a pas de parents contemporains, qui s'appelle le seri, parlé dans le nord-ouest du Mexique.
Quand on lit des vieux livres en vieux français, on a l'impression de revoir un peu comment ils parlaient à l'époque. Il y a des traces écrites, on peut s'imaginer. Si vous, vous étudiez des langues qui n'ont pas de traces écrites, comment vous faites pour remonter, on va dire, aux origines des langues que vous étudiez ? Est-ce qu'il y a des techniques ?
Donc effectivement, s'il n'y a aucune trace écrite, eh bien, il y a deux cas de figure. Alors, soit la langue en fait, a des langues sœurs.
Des langues sœurs ?
Des langues sœurs, donc des langues apparentées.
En fait, des langues sœurs, d'accord.
Donc des langues en fait, qui sont descendues d'un ancêtre commun. Mm-hmm. Soit elle n'en a pas. Qui est le cas notamment des langues isolées, comme le seri, cette langue du Mexique que j'étudie, ou le basque, par exemple. Prendre un exemple plus proche de nous. Alors, si la langue a des langues sœurs, donc c'est le cas du français, par exemple, hein, qui a non seulement les langues de la famille proche, hein, les langues romanes, l'italien, le roumain, l'espagnol, etc., mais aussi des langues de la même famille, un peu plus éloignées, les langues germaniques, les langues scandinaves, les langues iraniennes, etc. Bon, en l'occurrence, le français, c'est un mauvais exemple, puisqu'on a des traces écrites depuis très 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 longtemps. Mais imaginons qu'on n'ait aucune trace écrite, eh bien on peut essayer de remonter un peu le temps en utilisant la comparaison linguistique.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va comparer les langues afin d'en fait reconstruire ce qui a pu donner les différentes formes qui sont maintenant attestées dans les langues.
Donc de voir par exemple comment un mot est dit dans la langue d'origine, les langues sœurs autour, et d'essayer de se dire « Ah, il y a quand même une base commune, on peut imaginer que le proto-mot, le mot d'avant, ressemblait à ça, c'est ça ?»
Exactement. Alors pour un mot, comme vous dites, on peut aussi essayer de le faire pour des constructions grammaticales, on peut aussi le faire pour des sons, donc à différents niveaux de structure, là où c'est beaucoup plus difficile, voire peut-être impossible, c'est pour le sens.
Il faut faire des suppositions, j'imagine, des hypothèses.
Voilà. Mais voilà, donc par exemple, pour vous dire, donc c'est vrai que les langues européennes, pour la plupart, pas pour toutes, mais sont des langues très bien documentées sur des siècles. Mais on a quand même, et donc à partir de ça, du coup, on a pu partir d'un peu plus près de la langue
d'origine.
Commune d'origine, quoi. Mais quand même, par la comparaison de ces langues, de toutes ces langues, on a pu en fait faire une reconstruction de l'indo-européen.
Oui, la langue
dont on fait l'hypothèse qu'elle est à l'origine de toutes les langues, du coup, indo-européennes.
Donc ça, on a pu remonter très loin, parce qu'il y avait donc des archives écrites, on peut faire des systèmes de comparaison, il y a des langues sœurs autour, par déduction, par puzzle, j'imagine, comme ça qu'on peut reconstituer plein de choses.
Voilà, et en fait, l'existence de ces traces écrites sur des siècles, elle nous a permis d'aller plus vite, parce qu'on n'avait pas à partir de si loin, vous voyez.
Quand on est face à une langue où c'est la langue qui est parlée actuellement, que vous étudiez, face à vous, avec des locuteurs qui sont bien vivants, mais vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé avant. Comment vous faites ?
Alors, moi, pas personnellement, mais je sais que, par exemple, y a les langues amazoniennes aussi ont des familles de langues, hein, parce que c'est des populations qui se sont déplacées. On a reconstruit aussi les mouvements des populations, parce que c'est ça aussi qu'on peut reconstruire à travers la langue. Et par exemple, il y a une famille de langues qui sont les langues guarani, qui sont encore assez vivantes, d'un différent dialecte et d'une différente variété. Le guarani est aussi la langue officielle au Paraguay, donc une des langues officielles au Paraguay, donc c'est vraiment une langue qui a une statut aussi. Et en comparant les différentes variétés qui existent maintenant, effectivement, il y a des chercheurs qui essayent de reconstruire le proto guarani, en fait, un peu comme on fait avec l'indo-européen.
Donc là, au lieu d'utiliser le passé ou les langues voisines, on utilise des variations locales d'une même langue.
Les mêmes variétés, oui, qui sont...
Les variétés territoriales, on peut dire, pour aller reconstituer la langue primaire. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon terme.
La langue originale, qu'on suppose être la langue originale, c'est toujours une hypothèse après.
Et vous avez donné un exemple quand on a préparé cette émission sur le H en français. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de H ?
Le H en français, c'est un peu le cauchemar des étrangers et des enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots en français où il y a un H qu'on doit écrire et que sort un peu de nulle part parce qu'on ne le prononce pas. On l'appelle un H muet, typiquement. Et on peut se poser la question de pourquoi il est là, déjà. Et si on regarde l'évolution de la langue française par rapport justement au latin, on s'aperçoit aussi que dans beaucoup de mots latins, on avait cette graphie. Et donc, on l'a juste gardée jusqu'à présent. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en réalité, tous les H ne s'équivaut pas non plus en français. Parce qu'il y a des H qu'on ne prononce pas, mais qui sont quand même là. Et ça, on le voit dans le phénomène que tout le monde connaît probablement, qui est le phénomène de la liaison, c'est-à-dire le fait de prononcer un S quand on a un pluriel, un déterminant pluriel devant un mot qui commence par voyelle. Alors, il y a des mots qui commencent par H dans lequel ce S on l'entend, comme les hommes, et des mots qui commencent par H dans lequel on l'entend pas, comme quand on dit les halles, par exemple. Je pense que tous les locuteurs de français sont d'accord de dire que c'est bizarre de dire les halles. Mm-hmm. Ouais. Et pourquoi ? Alors que, parce qu'en réalité, il y a une raison. C'est-à-dire que les mots dans lesquels ce H, qui ne se prononce toujours pas, résiste la liaison, donc comme halles, c'est des mots d'origine germanique. Et à un moment donné, en effet, on peut imaginer que ce H était prononcé. Parce que c'est toujours le cas dans les langues germaniques. Comme en anglais, il y a encore très clairement cette distinction entre quand on dit a house et an hour. Dans les deux cas, il y a le H, mais dans un cas,
on le prononce.
Et dans l'autre cas, non. Et en français, c'était un peu la même chose à un moment donné. Ce H, l'absence des liaisons était justifiée probablement par le fait qu'on disait les halles. Mm-hmm. Hein? Et maintenant, ce H s'est perdu, mais on l'entend encore d'un certain sens et sa trace est restée. Donc, on peut expliquer des choses sur la prononciation en regardant ces choses-là aussi.
Donc, l'histoire de la langue et de sa prononciation, même si on peut un petit peu oublier des détails, finalement, se retrouve sur comment aujourd'hui on prononce les halles ou les hommes. Alors, je me tourne vers toi, Maëlle, puisque aujourd'hui tu as une double casquette. Tu es à la fois invitée, puisque tu interviendras bien à la Nuit Blanche des chercheurs, et à la fois tu es un bénévole du Labo des Savoirs, quand même important. Donc on va poursuivre cette interview, mais en chronique. Toi, ton sujet de recherche, c'est pas le H, c'est l'expression du futur. Alors quel est le rapport avec le côté métamorphose de notre Nuit Blanche des chercheurs ?
Alors la métamorphose, déjà, c'est un changement de forme, et en fait la référence au futur, elle est confrontée à quelques métamorphoses, que ce soit à travers les langues, puisque déjà dans environ 50% des langues que Dahl et Velupillai ont répertoriées en 2013, il y a une absence de ce qu'on appelle une inflexion verbale du futur. Alors, c'est pas le cas en français, puisqu'en français, on a des conjugaisons qui sont précisément pour la référence au futur. Donc, on a le futur simple, je mangerai, tu mangeras, le classique. On a le futur antérieur, donc j'aurai mangé, tu auras mangé, etc. Et le futur avec la périphrase aller qui oriente, enfin la périphrase aller, en fait le aller au présent, donc qui oriente entre guillemets directement l'action ou l'événement dans le futur. Donc je vais manger, tu vas manger. On comprend tout de suite que c'est pas maintenant que je suis en train de manger. Donc ça, c'est une forme qui s'est petit à petit grammaticalisée dans plusieurs langues romanes. Mais en fait, la métamorphose qu'on observe justement aussi dans le français oral plus courant, c'est qu'on a des constructions différentes qui permettent de référer à des événements du futur qui émergent. Donc en fait, on a des constructions où on va dire, par exemple, demain je suis en vacances. En fait, on n'a pas de verbe au futur, mais bien un verbe au présent. Être, là, il est totalement au présent. Et dans la littérature, ces constructions, elles sont appelées futurates. Et c'est sur ce sur quoi je travaille, en fait, dans les langues romanes. Et en fait, l'origine même des conjugaisons pour le futur, elle est le fruit déjà d'un premier changement avec le latin, puisqu'à la base, le latin avait une forme périphrastique et qui s'est petit à petit grammaticalisé en une forme plus synthétique du futur, et ça à travers les langues romanes. Donc en fait, c'est un peu le premier état de métamorphose de la référence au futur vers le français.
Et donc, il y a plus précisément, c'est quoi exactement ces constructions qui changent ?
Alors, par exemple, on va pouvoir utiliser un présent simple si on dit « demain je suis en vacances » ou alors « demain la France joue contre l'Italie et l'Estonie joue contre l'Espagne ». Jouer dans les deux cas, il est au présent, mais on comprend que ce présent en fait prend une valeur en quelque sorte de futur. Mais là encore, ça se fait pas de manière aléatoire. En fait, on observe qu'il y a des contraintes derrière ça, qui sont principalement liées au type d'événement et de verbe qu'on va employer. Donc, il va être nécessaire que ce qu'on dit soit à un certain degré planifiable ou prévisible. Parfois, ça va être des constructions avec demain, dans deux jours, l'année prochaine, qui vont nous donner l'info que le présent va avoir une forme habituelle de présent, mais un sens changé, entre guillemets, et qui va être un sens plus futur.
Est-ce que ça marche qu'avec le présent, cette technique ?
Non, enfin, ça dépend de comment on considère le passé composé, parce que dans son nom, il y a passé, mais ça peut aussi être analysé comme un temps du présent avec une marque aspectuelle de parfait, donc qui veut dire accompli, qui est venu à son terme, quoi. Donc dans ce cas précis, en fait, le passé composé a des contraintes qui sont liées, qui sont un peu plus strictes qu'avec le présent simple. Donc pour le coup, il y a un nombre, les verbes acceptés sont beaucoup plus restreints. Ça va être des verbes comme finir, terminer. Donc ça va donner des constructions comme « deux minutes, j'ai fini d'expliquer ce qu'est un futurate, ensuite je laisse la parole à mes collègues ». Et en fait, c'est une forme qu'on retrouve surtout à l'oral dans le français courant, colloquial en fait. Ce qui est intéressant à voir au-delà du changement de valeur que le passé composé va prendre dans ce cas-là, en fait c'est le processus même du changement qu'a subi le passé composé, parce qu'à la base, dans un premier temps, le passé composé, en fait, il avait une valeur de parfait, donc d'accompli, pour parler d'action, donc ces actions qui sont avant, bien sûr, le moment de parole, donc dans le passé, mais qui ont un lien avec le présent. Donc par exemple, si on dit « j'ai mangé » dans le sens où « ça y est, c'est fait, j'ai mangé, maintenant je n'ai plus faim ». Le temps, le passé composé, a pris petit à petit une valeur de passé simple, donc dans les récits par exemple, et on transmet à ce moment-là pas forcément des événements passés qui ont lien avec le présent, mais aussi potentiellement des faits passés qui n'ont pas de lien direct avec le présent. Comme si je dis « hier j'ai vu un film », oui c'est passé, mais ça n'a pas de lien spécialement avec le présent, enfin c'est plus en cours, ça n'influence pas mon maintenant tout de suite. Donc le français, là, il a une étape où en fait le passé composé est encore ambigu. Il est utilisé pour les deux cas en fait, et pas seulement une des deux fonctions. Et donc dans le français courant, à l'oral, on a personne qui utilise le passé simple, mais bien le passé composé à la place pour parler de faits terminés, dans le passé, là où à l'écrit, dans les registres plus formels, on va encore utiliser le passé simple, qui est un passé entre guillemets plus neutre. Et donc en fait, ce phénomène d'ambiguïté du passé composé, il est super bien illustré dans L'étranger de Camus, qui est un peu la première œuvre à utiliser le passé composé un peu partout, même à la place des passés simples qui sont habituellement utilisés. Donc, en fait, on voit bien la double face que le passé composé peut avoir, et donc un indice sur pourquoi lui en particulier pourrait parfois référer au futur.
Donc pour référer au futur avec ce passé composé ou un équivalent, c'est un phénomène qui est spécifique au français ou qui est partagé à travers les langues ?
Alors c'est assez partagé à travers les langues, mais quand même assez peu a priori. L'italien a aussi ce genre de construction alternative avec un équivalent de passé composé. Et c'est une langue qui, comme le français, a dans son inventaire des formes exprès pour le futur. Mais c'est un système qui est très proche. Et a priori, certaines contraintes avec l'usage du passé composé pour le futur seraient plus souples en italien qu'en français, où on pourrait avoir des événements un peu moins prévisibles ou planifiables qui vont pouvoir être exprimés avec des verbes au passé composé, même pour le futur. Et ça, c'est ce sur quoi je travaille pour ma thèse. Donc, d'abord, je vois ce qui est utilisé en fait dans les langues romanes. Pas toutes, mais le français notamment, l'italien, et puis... le portugais du Brésil. Ensuite, je vois ce qu'il y a derrière, s'il y a des principes qui semblent ressortir à travers les langues, donc les contraintes, à quel point elles varient ou non, et pourquoi, enfin, comment, ce qui régit le fait qu'on va préféré parfois ces formes-là aux formes plus classiques du futur, entre guillemets, fait exprès. Donc ces références, qu'elles soient avec le présent ou même le passé composé, c'est un peu une forme de métamorphose à la fois dans l'espace à travers les langues, mais aussi dans le temps, puisque de manière générale, en fait, les constructions verbales et temporelles changent. Donc c'est comme en portugais du Brésil, il y a à la base un futur synthétique, mais en fait il est presque plus utilisé, il est totalement remplacé par une périphrase avec aller plus en infinitif, qui est la forme qu'on a aussi en français.
Merci beaucoup Maëlle pour ces explications. T'en es où dans ta thèse ?
Tout début.
Eh bien, bon courage.
Merci.
On vient de parler du futur, on va revenir un petit peu dans le passé pour cette deuxième partie d'interview avec un extrait sonore qui sort tout droit de l'INA où des enfants de 1969 imaginent la vie dans l'an 2000.
Les moyens de transport seront très modernisés et on ira sur la Lune. Et aller sur la Lune, ça sera plus une grosse histoire comme en ce moment.
Moi, je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler.
Comment seront les métiers à l'an 2000 ?
Il suffira d'appuyer sur un bouton, puis tout se fera mécaniquement. Et je crois pas quand même qu'il y aurait des robots, mais pourquoi pas ?
Si ça marche tout électriquement avec des robots, comme tu dis un peu, il y aurait plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là. Ils seraient obligés de traîner dans les rues et puis ils mourraient pour ainsi dire de faim.
Mais non, parce qu'il faudra bien des hommes pour faire marcher les robots.
Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce qu'ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Et ils ne travailleraient plus. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient. Ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait.
Voilà qui est bien pessimiste. Alors, tout n'est pas si décalé avec nos enfants d'aujourd'hui. On pourrait s'y méprendre, penser que ce sont des enfants des années 2020 ou 2025 peut-être. Mais il y a quand même certaines expressions, certaines façons de parler, le « pour ainsi dire », par exemple, qu'on entend à un moment, qui nous font penser au langage de nos adultes à nous. Il y a certaines archives qui remontent encore plus loin et qui nous donnent l'impression que les enfants parlent carrément comme des vieux. Alors pourtant, on dit souvent qu'on ne comprend plus les jeunes quand ils parlent, ils n'arrêtent pas de modifier des mots, ils inventent des expressions, ils déforment la langue. Alors finalement, la métamorphose du langage, est-ce qu'elle ne viendrait pas des jeunes ? Est-ce que ce ne serait pas eux qui modifieraient ça ? Et est-ce qu'à cause d'eux, aujourd'hui, la langue se perd ?
Votre question et l'extrait que vous venez de passer m'inspirent beaucoup de réponses. Que la langue se perd, c'est ça ? Eh bien en fait, déjà de quelle langue est-ce qu'on parle ? Voilà, la question c'est, est-ce que si on parle finalement de la langue que vous avez apprise, quelqu'un a apprise quand il était enfant, ben oui, cette variété va certainement se perdre. Chaque génération, finalement, apprend une variété un peu différente, la variété qu'a apprise la génération précédente. Alors ces variétés, elles ne sont pas si différentes d'une génération à l'autre pour empêcher l'intercompréhension. Et si on regarde au bout déjà de 10 générations, on trouve plus de différences. 20 générations encore plus, et puis arrive un moment où en fait il y a tellement de différences que en fait ce sont des langues différentes. Alors on appelle ça de l'ancien français, du moyen français. Du coup on nomme les strates, parce qu'on reconnaît qu'il y a quand même une sorte de continuité, en tout cas spatiale. Mais oui, évidemment qu'une, sans doute la source principale d'innovation, ce sont... Les enfants et les nouvelles générations.
Ces jeunes qui, en tout cas moi, quand je les écoute parler, alors que j'estime que je ne suis pas si vieille que ça, parfois je ne les comprends pas. Il y avait l'exemple, je crois, du créole. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet exemple-là qui, je trouve, est très parlant ?
Oui, c'est un exemple qui illustre bien cette hypothèse qui est assez partagée, de dire que le changement linguistique, ça se fait par génération, en fait, de génération en génération. Alors, l'exemple du créole est intéressant parce qu'il répond, d'une certaine façon, à une question qu'on se pose tous et toutes, qui est comment est né le langage, comment sont nées les langues, parce que... Jamais savoir, on fait de la reconstruction jusqu'à très loin, mais ça reste des hypothèses parce qu'on ne peut pas évidemment savoir comment parlaient les premiers hommes et qui a commencé à parler. Mais on peut étudier la naissance des langues plus près de chez nous, et l'exemple du créole est un exemple pertinent en ce sens, parce que les créoles, ce sont des langues assez jeunes qui sont nées dans un contexte très spécifique, qui est un peu un contexte très malheureux qui était l'époque de la traite des esclaves, quand les esclavagistes, disons, ils vendaient à des maîtres des hommes et des femmes qui venaient souvent de l'Ouest de l'Afrique, mais qui venaient d'endroits différents et qui parlaient des langues complètement différentes, qui n'avaient aucun lien entre elles. En Afrique, la situation est très fragmentaire au niveau linguistique, même maintenant. Et du coup, ces personnes s'est retrouvées à vivre ensemble et ils n'avaient aucune langue commune. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient pour communiquer, même dans les tâches du quotidien? Ils inventaient un système de communiquer qui n'était pas une langue, qui empruntaient des mots lexicaux de la langue commune qu'ils avaient, qui était la langue de leur maître. Donc, c'est pour ça qu'on parle des créoles du français, du créole de l'anglais, du créole du néerlandais ou portugais. C'est juste à niveau lexical, en fait. C'était une langue d'emprunt. Et ils l'utilisaient de façon complètement impressionniste, en mettant des mots l'un après l'autre pour essayer de se faire comprendre. Donc ça, ce n'était pas une langue. C'était juste un jargon ou un code entre les...
Pour communiquer, pour se faire comprendre.
Comment
avec les autres.
Avec une langue qu'on ne connaît pas du tout. Sauf que la situation s'est un peu éternisée et du coup, ces groupes de personnes qui vivaient ensemble, ils ont eu des enfants, ils se sont stabilisés. Et leurs enfants, par contre, quand ils sortaient de leur famille, ils ont commencé à systématiser, disons, ce code en créant effectivement une langue qui avait, toujours, parce que c'est le cas, qui a une vraie grammaire, une langue qui est complexe, tout comme le français ou n'importe quelle autre langue, qui a une grammaire très précise, qu'il faut apprendre, comme on apprend le français. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que si on compare les différents créoles à travers le monde, le créole du portugais parlé en Afrique, au Mozambique par exemple, et le créole du français parlé aux Antilles, on se rend compte qu'ils sont très semblables du point de vue grammatical.
D'accord.
Ouais, ils ont des points communs très, très forts. Et donc on peut répondre peut-être, de façon un peu hypothétique, à la question comment ils étaient les premières langues.
Parce que finalement, tous ces créoles avec une langue de base différente ont développé des mécanismes semblables. Et c'est un peu le dernier exemple le plus récent qu'on a de naissance de langue.
D'une langue. Alors, il y a d'autres exemples qui sont assez connus. Par exemple, une langue signée. Donc, le créole, c'est une langue orale, mais il y a des langues signées, donc langue des signes. Et un exemple très connu est l'exemple de la langue des signes du Nicaragua. Le Nicaragua, c'est un État qui a eu une révolution politique dans les années 60, à la fin des années 70. Et jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'école spécialisée pour les enfants malentendants. Quand ils ont commencé à créer des écoles spécialisées et à mettre ensemble ces enfants, commencé à développer une sorte de langue signée. C'est un jargon encore. Parce que eux, ce n'était pas leur langue de base. Ils n'avaient pas appris ça quand ils étaient enfants. Par contre, les enfants plus petits qui ont commencé à apprendre cette langue dans ces écoles, quand ils étaient vraiment tout petits, ils ont développé un autre cette même langue signée, mais
un autre niveau.
Un autre niveau. Une langue grammaticalisée, en fait, c'est devenu une vraie langue des signes du Nicaragua.
Donc ce seraient les enfants premiers locuteurs ou utilisateurs d'une langue qui était, on va dire, créée par puzzle par les plus âgés, qui enracinerait, rendrait vraiment solide la création d'une langue finalement. Ce serait par les premiers utilisateurs jeunes de cette langue, que ce soit pour le créole ou là avec l'exemple de la langue signée.
Oui, donc ils créent vraiment une grammaire. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de règles. Et là, il y a des règles, donc on peut interroger ses enfants et leur demander mais est-ce que cette phrase ça va ou ça va pas? Et ils vont dire oui ou non, comme on fait nous avec le français. Et c'est comme si les enfants injectaient de la complexité. Dans ces codes trop simples.
Ce qui permet de répondre à la question est-ce que la langue se perd à cause des jeunes? Non. On aurait encore plein de choses à dire, et on a plein de choses à dire, mais on arrive déjà au niveau du timing, bientôt à la fin de l'émission. Alors, rapidement, on n'en a pas parlé, mais je le cite, c'est important. La langue évolue et se métamorphose à travers de grands mécanismes. En préparant cette émission, vous en avez soulevé trois, que je cite. La réinterprétation, l'analogie et l'emprunt. on aurait besoin d'une deuxième émission pour pouvoir en parler longuement. Hélas, on manque un peu de temps. Juste très rapidement sur l'emprunt, c'est l'exemple, par exemple, des échanges entre le français et l'anglais. C'est bien ça, les allers-retours qu'il peut y avoir.
Oui, oui. Mais par exemple, on a. Alors, c'est des exemples que j'ai pris dans le très très bon livre de Henriette Walter. D'ailleurs, il y en a plusieurs, mais je peux citer L'aventure des langues en Occident et Onisois qui mal y pense. Si. Mm-hmm. Ça peut intéresser des auditeurs, mais c'est par exemple donc des exemples d'aller-retour, c'est-à-dire en fait des mots français qui ont été empruntés par l'anglais et que nous, on a ensuite, quelques siècles plus tard, le français, a repris à l'anglais, donc sous une forme différente. Donc c'est le cas, par exemple, un exemple bien connu, c'est flirter, nous paraît venir de l'anglais. Mais en fait, on avait une expression compter fleurette qui a été pris par l'anglais, qui est devenu du coup flirt. Et que nous, on a repris flirt et on l'a francisé en mettant la terminaison d'un verbe.
Quand on dit qu'on drague, qu'on flirte, ça vient en fait d'une expression française, voilà, compter fleurette.
Et un autre exemple, par exemple, que je peux vous donner, c'est le mot budget, qui a été pris à l'anglais budget, mais qui lui-même avait été pris français, notamment un mot d'origine gauloise, qui était bouge ou bougette, pour dire une petite poche dans laquelle on mettait de l'argent.
Voilà. Oh, c'est génial. Bon, j'aime beaucoup ces exemples.
Voilà. Vous pourrez tous les retrouver dans les livres que je viens de citer.
Ouais. On les mettra en description du podcast si vous êtes intéressé pour voir les références. Avant de conclure cette émission, on écoute Cécile qui s'est penchée aussi sur la métamorphose, mais de la chenille en papillon. Alors comment ça se passe à l'échelle des cellules, Cécile ?
Bonjour Sophie. Et oui, c'est ça. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai ce souvenir d'enfant que la chenille se transformait en chrysalide, se dissolvait complètement en une soupe d'insectes et qu'en quelques semaines, cette soupe se transformait en papillon. J'ai toujours trouvé ça magique et pas très réaliste, mais soit. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler des disques imaginaux. Et là, tout a fait sens. Les disques imaginaux, découverts par Jan Swammerdam, sont de petits sacs de cellules qui sont parmi les seuls à ne pas se dissoudre dans la chrysalide. Ils sont une vingtaine et sont constitués de 10 à 50 cellules. Donc rien du tout comparé à notre chenille dodue ou au fabuleux papillon qu'elle deviendra. Les disques imaginaux sont appelés comme ça car les entomologistes, les scientifiques qui étudient les insectes, appellent l'insecte adulte imago. Et que les sacs de cellules qu'ils constituent sont aplatis comme des disques. Concernant les papillons, Lowe, en 2013, a utilisé la tomodensitométrie pour étudier les chrysalides tout au long de la métamorphose. En fait, en plus des disques imaginaux, le système respiratoire et digestif, bien qu'il soit modifié, ne disparaissent pas non plus. Les disques imaginaux se développent très rapidement pour donner toutes les structures dont le papillon est constitué, mais pas la chenille. Donc les yeux, les antennes, les ailes, les pattes, les parties de la bouche et les organes génitaux. Les ailes sont présentes sous forme de blobs qui deviendront des ailes pendant le développement. La dissolution de toutes les autres cellules se produit grâce à un torrent d'hormones et de signaux chimiques qui vont induire l'apoptose, la mort, des cellules dont n'aura pas besoin le papillon. Si vous voulez plus d'infos sur l'apoptose, allez écouter l'émission « Mort cellulaire » sur Spotify. L'équipe de Mindec en 1972 a montré que les disques imaginaux, eux, ne sont pas affectés par les hormones et sont prédestinés à devenir chacun une structure particulière de l'insecte adulte. Les propriétés de ces cellules sont très intéressantes, mais le papillon n'est pas le modèle le plus pratique à étudier. En effet, l'insecte reste à l'état de chenille ainsi que celui de chrysalide pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, alors que notre petite drosophila... Ah, la drosophile. Mais si, vous savez, le petit moucheron qui se multiplie en un rien de temps dans votre bac à compost en plein été. Eh bien, ses capacités de reproduction en un temps record sont très pratiques. Et la drosophile aussi passe de l'état de larve à celui d'adulte via une chrysalide. Bon, le résultat est moins flamboyant, je vous l'accorde, mais beaucoup plus pratique pour les chercheurs. Comme je vous l'ai précisé juste avant, un disque imaginal comporte 10 à 50 cellules qui vont passer à 50 000 cellules en seulement 4 jours. Aldaz et Escuardo, en 2010, nous apprennent que ces quelques dizaines de cellules n'ont pas de libre arbitre. Elles sont déjà destinées à former une structure particulière de la patte, par exemple. Les cellules les plus au centre du disque vont former les parties les plus distales, genre les orteils, et les cellules les plus à l'extérieur du disque vont former les parties basales, genre la hanche, de la patte par exemple. Une sacrée organisation génétique et chimique est à l'œuvre dans un si petit nombre de cellules. Au moment de la métamorphose, les disques se creusent par le milieu, se déplient et s'allongent en simultané depuis l'intérieur de la larve vers l'extérieur, tout en se différenciant dans les structures externes adultes. Puis les paires bilatérales de disques fusionnent, œil droit avec œil gauche, patte droite avec patte gauche, puis tout fusionne pour donner ce qui commence à ressembler à une mouche adulte. Tous ces changements nécessaires à transformer un petit sac de cellules en insectes adultes différenciés sont énormes et regroupent la plupart des aspects de la biologie du développement. C'est pourquoi les disques imaginaux sont un si bon modèle d'étude. Béra et Parot en 2016, dans The Legacy of Drosophila Imaginal Discs, nous font une revue de toutes les découvertes faites en biologie cellulaire et développementale grâce à l'étude des disques imaginaux. Par exemple, l'étude de ces cellules a permis de mieux comprendre la destinée cellulaire. En effet, les disques imaginaux peuvent être transplantés dans un autre insecte et conserver leur fonction et la taille de l'organe en résultant. Les connaissances sur la structuration des tissus et des organes, en postérieur-antérieur ou dorso-ventral, les interactions cellulaires ainsi que l'identification de cascades génétiques complexes ont aussi été élucidées par l'étude de ces cellules. Ils ont aussi permis la caractérisation du rôle de voie de signalisation très conservée, c'est-à-dire présente chez tous les organismes, comme EGFR, MAP kinase, JAK-STAT. Des noms barbares oui. qui sonneront aux oreilles des étudiants biologistes et biologistes chevronnés. Pour des raisons évidentes, les disques imaginaux abondent aussi la recherche sur la régénération tissulaire, mais également les modèles tumoraux. Bon, bien sûr, seulement d'un point de vue génétique et cascade de signalisation, puisque la drosophile est un peu éloignée de nous concernant la vascularisation et le système immunitaire. Alors, je ne vous cache pas que j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette chronique. Je connaissais juste l'existence de ces disques imaginaux, mais pas leur capacité incroyable, ni tout ce que leur étude avait apporté à la science ces 50 dernières années. Tout ça fait des disques imaginaux les vrais couteaux suisses de la recherche. Alors, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus les petits moucherons qui volettent dans votre cuisine du même œil.
Merci beaucoup Cécile pour cette chronique passionnée et passionnante. Si vous voulez en savoir plus sur la métamorphose du langage ou des drosophiles, rendez-vous donc à la Nuit Blanche des chercheurs. Vous y rencontrerez notamment les merveilleuses personnes qui sont avec moi en plateau actuellement, mes invités. Alors justement, pour terminer cette émission en moins d'une minute, pourquoi est-ce que vous allez à la Nuit Blanche des chercheurs? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et est-ce que c'est excitant de rencontrer le grand public?
Moi, j'encontre du public tout le temps parce que je suis aussi enseignante. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir partager sa passion avec des gens qui ont choisi de nous écouter. Et aussi parce que je pense que c'est important de dissiper certaines appréhensions que les gens peuvent avoir sur l'état de leur langue, sur le fait que le français va disparaître, qu'il est menacé. Ce n'est pas du tout le cas, du moins du point de vue de linguiste. C'est des impressions qu'on peut avoir, mais il faut vraiment chercher d'aller plus loin dans la description, dans l'analyse, pour se rendre compte qu'en fait, le français est très riche et la richesse du français vient justement de son perpétuel changement.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que au-delà de transmettre notre passion, j'insisterai aussi sur le point en fait que notre approche est vraiment descriptive. Nous ne sommes qu'observateurs. On décrit ce qu'on voit sans porter de jugement. Puis, ce sera aussi peut-être l'occasion pour les gens qui viendront assister à notre mini-conférence de nous poser la question. Mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Qui est une question et qu'on se pose nous-mêmes.
Gardez cette question en réserve. Maëlle, la Nuit Blanche.
Parce que la linguistique aussi, c'est très peu connu. Et pareil, il y a plein d'a priori, que ce soit sur la langue, mais aussi sur ce qu'on fait effectivement dans la linguistique descriptive.
C'est l'occasion de partager votre passion commune et d'en parler avec le public. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Merci.
Merci à Martha Donazan, Jérémy Pasquereau et Maëlle Michaud-Dupont du Laboratoire de Linguistique de Nantes d'avoir répondu à mes questions. Merci également à Mélissa et Cécile pour leur chronique. La Nuit Blanche des chercheurs, c'est ce jeudi 6 février 2025 de 17h à minuit et c'est gratuit. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur lelabodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Radio G 101.5 FM.